Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Atari, l'émission de débat de Criticat. Nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle saison avec un format légèrement différent. Et nous parlons aujourd'hui du Garçon et le Héron, le nouveau film d'Hayao Miyazaki, 9 ans après Le Vent se lève. Je suis accompagné d'Adrien Mitterrand pour parler du film.
Bonjour Marin.
Bonjour Adrien. Adrien, tu aimes beaucoup Miyazaki, tu avais notamment... animé la séance qu'on avait faite à notre ciné-club du Vent se lève l'année dernière. Qu'as-tu pensé de ce nouveau film dont La tarte à la crème serait déjà de considérer très rapidement qu'il s'agit d'un film testament comme chaque film de Miyazaki depuis 20 ans peut-être?
Oui, on va pas forcément s'attarder là-dessus parce qu'effectivement on dit ça à chaque fois, sachant que Miyazaki annonce toujours sa retraite et puis bon, qu'il revient dessus. Néanmoins, on peut voir, c'est vrai, dans ce dernier film, des signes comme quoi Miyazaki a de plus en plus envie de parler de lui, en tout cas de l'assumer et de se montrer comme tel. Il y a une dimension autobiographique qui, je pense, a toujours été là, mais elle est peut-être plus visible, en tout cas. Donc, en cela, oui, il y a quelque chose d'un peu testamentaire, mais bon, moi, personnellement, je trouve qu'il l'est finalement moins que Le Vent se lève, donc... On va dire qu'en tout cas, il y a beaucoup de liens avec ses précédents films, beaucoup de références à ses précédents films. Mais là encore, Miyazaki est très, très, très constant en fait, dans les structures de ses récits et dans même son style graphique. Hein. On parle toujours de la liquidité du style Miyazaki. Bah, elle est là, comme dans ses précédents films. Il y a quelque chose qui peut-être est différent des autres, c'est que son Kopertaka Hata n'est plus là. Qu'il est mort donc après son dernier film qui était La princesse Kaguya et que je ne sais pas si c'était voulu comme tel ou pas, mais en tout cas le fait était là. Le Vent se lève et La princesse Kaguya sont sortis en même temps et donc il y avait l'impression d'une double révérence du départ des anciens de Ghibli et donc en tout cas c'est le premier film post-Takahata et en ça il est peut-être un petit peu différent des autres, notamment peut-être avec, on peut évoquer sa première scène.
Oui, la première scène du film qui montre donc le personnage principal, Maito, courir dans la rue alors qu'un incendie a lieu dans la ville où il habite pour rejoindre sa mère à l'hôpital. Et c'est vrai que pendant cette scène, c'est difficile de ne pas penser à Takahata et notamment à la princesse Kaguya parce que pour la première fois, il me semble, dans l'œuvre... De Miyazaki, son style se fait griffonner, il y a le visage du personnage est à moitié déformé, il y a une espèce de bizarrerie du trait complètement halluciné qui me semble plus venir effectivement de Takahata que de Miyazaki. C'est peut-être d'ailleurs la scène la plus forte du film en ouverture. Non, moi c'est vrai que le film a cette particularité qui est que c'est sa structure en fait, c'est vraiment un film en deux parties, un film bicéphale, et c'est vrai que moi j'ai voulu respecter ce truc assez étonnant de la promotion japonaise, savoir qu'il n'y en a pas eu, pendant très longtemps on a eu seulement une seule image du film, un dessin griffonné en plus qui n'est pas vraiment une image de la matière du film. Et quand le film est sorti voilà, au Japon en juillet, sous le titre « How do you live ?», donc le titre a changé aussi, les spectateurs qui allaient n'en savaient rien, et donc j'ai essayé de m'accrocher un peu à ça et de résister aux tentations de la bande-annonce. Et c'est vrai que du coup j'ai pu rentrer dans le film de façon très étonnante, à savoir que cette première partie... ressemble quelque part à tous les premiers quarts d'heure des films de Miyazaki jusqu'ici, à savoir quelque chose de beaucoup plus quotidien, terre à terre, d'un jeune garçon qui arrive dans un nouvel endroit. Enfin, c'est quelque part le début du voyage de Chihiro aussi. Sauf que au lieu de traverser un miroir, de tomber dans le trou au bout d'un quart d'heure, voilà, dans un nouveau monde un peu merveilleux, cette traversée arrive au bout de seulement une heure du film, et pendant une heure en fait ça, il va y avoir comme une espèce d'évolution extrêmement distendue de la bizarrerie, du fantastique dans le film à travers les différentes apparitions de ce héron. Qui voilà, pendant toute la première moitié du film est un peu le seul élément constitutif du fantastique dans le film.
Oui, tu parles du voyage de Chihiro. Moi, pour cette première partie, j'ai beaucoup plus pensé à Totoro, qui a d'ailleurs un peu une construction similaire, parce que cette première partie dans Totoro, qui est un peu équivalente, avec un déménagement, avec une mère absente, dure très longtemps, on s'en souvient pas, mais Totoro arrive très tard dans le film, un petit peu comme là. Et le fameux héron dont tu parles joue un petit peu le même rôle que Totoro, à savoir qu'il vient déchirer ce quotidien de l'enfance par un surgissement du fantastique qui va permettre d'accéder à, on va dire, une voie vers la mère absente. Hein, c'est, dans les deux cas, c'est ça. Sauf que, bon, ben là, on est dans une version vénéneuse, clairement, de Totoro. C'est-à-dire que dans Totoro, le père était aussi absent, mais c'était parce que c'était un universitaire en anthropologie. Il y avait une version très sublimée du père, et cette image du père ne cesse de se dégrader hein, de film en film. On sait que Miyazaki avait une considération assez limitée pour son père. En tout cas, il est assez tempéré. Il ne sait pas trop quoi penser de son père, et ça se sent hein, dans ses films de plus en plus. Bon, ben là, on parle carrément d'un père qui non seulement est absent, mais en plus est potentiellement un peu traître, puisqu'il se remarie après la mort de la mère, et je ne raconterai pas le scénario, mais dans une situation qui est quand même assez, assez compliquée à gérer pour l'enfant. Et ce côté plus torturé, on le ressent dans toute la direction artistique. Ça raconte un peu la même chose que Totoro, mais cette fois, on n'est plus dans une jolie maison à la campagne, on est dans un manoir lugubre. On n'est plus dans les teintes de l'été de la campagne japonaise, mais on est dans une espèce de grisaille constante, plus européenne en tout cas, dans son traitement. Et puis, ben voilà, le héron, on ne sait pas quoi en penser dans un premier temps. Oh, moi, je trouve que c'est une des plus belles créatures qui est de toute la filmographie de Miyazaki, parce qu'elle concentre quelque chose qui a toujours été là, alors peut-être pas pour Totoro, mais souvent, à savoir qu'il est tout aussi menaçant qu'attirant, qu'on attend son retour avec impatience comme le héros, mais sans savoir dans quelle intention il vient. Et puis, il y a des moments de surgissement qui sont esthétiquement absolument fabuleux, quoi.
Oui, c'est ça, parce que tu disais il déchire un petit peu le tissu du réel quand il apparaît, mais il déchire aussi l'animation. À chaque fois, ses apparitions, c'est comme si d'un coup, il y avait plus d'images animées par seconde, par le bruissement des ailes, même un soudain panoramique, alors que la mise en scène chez Miyazaki est souvent assez fixe, ou même par les petits éléments. Moi, je sais que le bruissement de la flèche fabriquée avec la plume du héron est une des visions peut-être les plus inouïes que le film m'a donné. Il y a comme ça voilà, des espèces de surgissements fantastiques qui sont aussi le surgissement de la virtuosité de l'animation quelque part, dans quelque chose de plus installé, d'une bizarrerie plus diffuse, jusqu'à donc cette traversée du miroir, dans un plan d'ailleurs avec un petit peu d'animation en CGI, et dans cette deuxième partie voilà, un peu plus étrange qui a déçu quelques personnes au sein de la revue, notamment Corentin Lay, qui a signé le texte et que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, de cette structure, de ce nouveau monde régi de règles presque infinies, en fait, dans lequel on rentre.
Bah, déjà, ce qui surprend, c'est que le film est vraiment divisé en deux de manière presque brutale, là où Miyazaki, d'habitude, nous entraîne petit à petit dans un autre monde. Disons que la traversée carolienne, elle se fait plus progressivement, pas forcément dans tous, mais là, il y a vraiment l'impression d'avoir deux films très différents, même si, à bien y regarder, en fait, tout est très bien relié. En fait, il faut considérer que Miyazaki, il part toujours du dessin avant de partir de la narration. Par exemple, pour Ponyo, il avouait que tout le film était parti de son dessin de Ponyo abrité sous une méduse, et que de là, il a tissé un récit. Là, on pourrait se demander de quoi est parti le film, et moi, je pense qu'il est parti du héron, c'est une hypothèse, je n'ai aucune info là-dessus, mais en tout cas, de là, il va tisser quel est le rôle de ce héron, comment va-t-il se métamorphoser, parce que les personnages se métamorphosent toujours, et comment le monde va se métamorphoser autour. Et tu parlais des sons, moi j'aimerais aussi lier donc, tout ce qui est bruit du craquement de bois, Corentin en parle dans son article, avec le craquement de bois du manoir, le feu, les pattes du héron sur le toit, tous ces sons qui se ressemblent en fait et qui mélangent l'imaginaire et le réel. Ces sons qu'on va retrouver aussi dans la deuxième partie et qui vont peut-être même donner naissance à des nouvelles créatures. C'est-à-dire que je pense que Miyazaki travaille comme ça. Il imagine une créature, il lui attribue des sons, ces sons-là lui donnent d'autres idées et par exemple, bon, ok, la deuxième partie est certes moins convaincante que la première, mais il y a des trouvailles absolument dingues. On entend quand même des respirations menaçantes de perruches. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de ce souffle des perruches. Enfin, c'est une idée quand même incroyable qu'il exploite. En plus, ce n'est pas juste une petite épiphanie. C'est-à-dire que c'est la caractéristique. Quand on entend cette respiration menaçante, on sait que les perruches ne sont pas loin, quoi.
Oui, un bestiaire. Moi, j'ai un vrai plaisir de sombrer comme ça dans ce bestiaire merveilleux. Extrêmement étrange où effectivement chaque nouvelle scène apporte son nouveau lot de bestioles avec donc ces perruches qui d'une certaine manière sont extrêmement mignonnes aussi mais qui sont une espèce de menace presque cannibale dans le film. Non, moi c'est vrai que j'ai eu ce sentiment, tu dis les idées chez Miyazaki viennent toujours du dessin, là j'ai l'impression que ça va encore plus loin dans ce film là à savoir que j'ai vraiment l'impression que le film a été écrit en même temps qu'il était animé. Du moins pour la deuxième partie, à savoir que contrairement à Chihiro peut-être, on pouvait avoir ce sentiment-là de nouvelles règles, parce que Chihiro quand Chihiro traverse le monde, enfin arrive dans ce nouveau monde, elle doit apprendre voilà un certain nombre de règles complètement absurdes. Il ne faut pas respirer sur le pont quand tu traverses pour ne pas qu'on te reconnaisse en tant qu'humaine. Pour rester là, il faut que tu ailles chercher du travail. Pour aller chercher du travail, il faut que tu descendes, aller demander. Enfin, il y a voilà une sorte d'amoncellement de règles que Miyazaki nous fait accepter jusqu'à au bout d'une heure et demie de film, on apprend soudain que Yubaba, la sorcière, a une sœur jumelle. Il y a voilà quelque chose d'une forme de collage, mais qui dans Chihiro avait quelque chose de peut-être plus tenu sur les questions symbolique du film et une manière de se refermer comme ça logiquement malgré les écarts habituels chez Miyazaki.
Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que là on a plus l'impression que certains espaces ne sont que traversés.
Voilà, c'est ça. Et là, moi, ce qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est que le monde des morts, du coup, dans lequel elle pénètre, n'a pas l'air d'avoir de géographie réelle. Chaque espace est un peu une sorte de nouvel espace. Il va y avoir des traversées comme ça que rien ne semble vraiment relié entre elles avec ces nouvelles créatures que sont les Warawara, donc la traditionnelle créature petite et assez mignonne de Miyazaki, dont on apprend qu'elle serait en fait les esprits des gens qui ne sont pas encore nés. Et que donc, enfin, au fur et à mesure, voilà, il y a une sorte d'amoncellement de règles, encore une fois, mais qui n'ont pas l'air de tenir vraiment entre elles, ce qui fait que Miyazaki plonge dans quelque chose qui ressemble plus pour moi à la fin de Ponyo, qui est un Miyazaki que j'aime un peu moins malgré des scènes absolument extraordinaires. Donc avec cette espèce de sorcier un peu queer qui apparaît dans une bulle et soudain il y a comme quelque chose comme ça d'un imaginaire un peu ésotérique mais dans lequel on a un peu du mal à pénétrer je trouve dans ce film.
Ouais, ben tout ce que tu viens de dire est vrai, enfin je suis totalement d'accord avec toi. On peut peut-être ajouter que tout ça mène au constat que son monde s'effondre. Alors je sais qu'il ne suffit pas d'avouer que son film a des limites pour que le film n'ait plus ses limites. On pourrait dire que c'est justement le principal problème de celui-là. Cela n'empêche que le film est cohérent avec lui-même et qu'il fonctionne. C'est-à-dire que plus on avance dans le film, plus cet univers semble effectivement se disloquer. On comprend plus sa géographie, on passe d'espace en espace. Et c'est peut-être moi ce qui m'a le plus déçu, c'est que parfois, il y a vraiment des raccords où on passe d'un espace à un autre et c'est totalement gratuit.
Oui, il y a des pistes qui sont abandonnées. En fait,
voilà, exactement. Mais on aboutit quand même sur ce créateur donc, d'un monde qui ne tient plus debout et qui cherche un successeur qu'il ne trouve pas, avec cette espèce de boucle temporelle où il donne la clé à un jeune qui a l'air d'être Miyazaki lui-même. Enfin, on ne sait pas trop de quoi il parle, en fait. Hein. Certains disent que c'est un film qui s'adresse à ses petits-enfants. Bon, on ne sait pas trop, mais tant mieux, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas trop abordé jusque-là, qui est qu'il y a quelque chose de lynchien hein, dans ce film, presque consciemment d'ailleurs, avec cette histoire de rideau qui s'ouvre et qui se ferme, cette traversée à la Orphée et Eurydice. Et du coup... c'est comme s'il rentrait dans ses propres fictions, dans ses propres univers fatigués, malades. Et moi, ça m'a donné l'impression que c'est ça qu'il essayait de retranscrire, en fait. Son il est fatigué, son univers est fatigué, mais ça peut être une source d'énergie créatrice, en tout cas c'est ce qu'il essaye de travailler dès les premières teintes du film. Hein. Encore une fois, ce film très gris, qu'on ne connaissait pas hein, chez Miyazaki, ce genre de couleurs, il ne les a jamais vraiment exploitées. Il y a quelque chose qui est très mortifère hein, dans ce film. Bon, on peut dire qu'il n'y arrive pas totalement, mais cette deuxième partie a sa cohérence quand même, je trouve.
Bah, oui, tu dis Lynchien, moi j'ai aussi pensé que c'était borgésien aussi d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça dans l'œuvre de Borges où au fur et à mesure il devient de plus en plus fasciné par l'idée du labyrinthe. Et c'est vrai qu'en fait l'idée du labyrinthe est très importante chez Miyazaki, simplement c'est pas un labyrinthe vraiment apparent, on ne voit pas les murs, mais c'est quand même des labyrinthes à traverser parce que quelque part le mystère du monde est tellement fort que les personnages sont obligés voilà, de vivre dans des labyrinthes plus ou moins conscients ou non. Moi, ce qui m'a en fait un petit peu gêné dans cette deuxième partie, c'est moi en fait le fait de la pure perdition. Ça, je peux prendre plaisir à ça. C'est que à travers cette perdition, par toute une série de motifs, peut-être pour la première fois devant un film de Miyazaki, je pense à d'autres cinéastes. Bon, il m'est arrivé devant des films de Miyazaki de penser à Takahata, mais hormis Takahata, je ne pensais pas vraiment à d'autres cinéastes. Et là, je trouve que il y a quelque chose dans ce film qui, en fait, va bien avec une certaine forme de l'animation japonaise contemporaine. Et je pense notamment à un cinéaste qui a été évidemment énormément influencé par Miyazaki, qui est Makoto Shinkai, donc réalisateur de Your Name, des Enfants du Temps et de Suzume. Et dans un peu cette obsession pour quelque chose qui, moi, ne m'intéresse pas énormément dans le film, pour un trauma à aller réparer à travers une forme de paradoxe temporel où le personnage va rencontrer sa mère quand elle était enfant et toute une série de portes à traverser. Donc la porte, c'était aussi ce qui était au centre de Suzume, le dernier film de Makoto Shinkai, donc sur des portes qui traversent les dimensions. Moi, quand les portes apparaissent aussi, j'ai du mal à ne pas penser à Monstres et Compagnie, j'avoue. Film que je trouve génial par ailleurs. Mais voilà, il y a une forme, quelque part, j'ai l'impression que Miyazaki se repose quand même sur, malgré la très grande singularité du film, rejoint une forme de, pas de désinvestissement, mais en tout cas de quelque chose qui serait déjà un peu vu ailleurs, et ce qui fait notamment que j'ai l'impression qu'à la fin du film, quand le traditionnel retour au monde réel se fait de façon un peu déceptive, je sais pas, il y a quelque chose de bon, maintenant il faudrait, on est arrivé à 2 heures de film, on peut retourner au monde réel, et il y a quelque chose comme ça de très ténu dans la fin du film qui est étonnant vu les proportions philosophique et le monde entier qui a été en danger, que le film a traversé juste avant.
Oh, oui, c'est quand même aussi.
Enfin, j'essaie d'être un peu dur parce que de toute façon le film me touche énormément et je trouve qu'il est traversé de visions absolument incroyables et que Miyazaki de fait n'a pas grand chose à voir avec le reste de la concurrence, mais voilà, je me fais quand même la voix de quelques réserves.
Mais c'est ce qu'il fait toujours, hein. C'est fait un petit peu déceptive et peut-être qu'il le fait un petit peu moins bien là. Mais moi, c'est justement ce qui me bouleverse le plus chez Miyazaki. Si on reprend Totoro, je veux dire, on parle d'une mère qui est en train de plus ou moins mourir d'une pneumonie à l'hôpital. Et puis finalement, le récit nous amène juste au fait que ses filles arrivent à lui apporter un épi de maïs qui pose sur le bord de la fenêtre. Et on ne saura pas si la mère guérit ou pas. Donc il y a quelque chose, on revient toujours sur quelque chose de très très... de très très simple. Il se passe pas grand chose à la fin des films de Miyazaki. On a fait un immense voyage pour revenir à un point qui n'est pas si éloigné du début, si ce n'est que les personnages ont guéri. Et dans celui-là, je crois que c'est un personnage qui guérit que partiellement. Donc il y a ça aussi. Finalement, il ne s'est pas vraiment réconcilié avec son père à la fin. Mais il a appris à le voir d'une manière un petit peu plus ridicule, en tout cas affectueuse. Il a une affection vers lui. C'est le même regard le regard qu'il porte sur le héron, hein, qui est passé d'une créature inquiétante et surpuissante à une espèce de sidekick un peu ridicule. C'est son père, en fait. Bon, moi, cette fin dans la chambre, je la trouve magnifique. Cette sortie de champ, elle est superbe, quoi, parce qu'on revient justement dans ce lieu qui que j'aurais aimé voir plus investi du fantastique dont parle Corentin, du fantastique propre à l'animation, à savoir qu'il suffit juste d'un tout petit changement de trait et puis ça y est, les formes évoluent. Mais justement, il revient dans un monde très fixe, habité du pouvoir, de pouvoir le transformer en ce monde qu'il a traversé, ce monde imaginaire. Moi, je trouve que ça marche très bien, mais c'est déceptif.
Non, c'est vrai qu'il y a de toute façon quelque chose d'assez contre-intuitif, je pense, chez Miyazaki, vu l'émotion en général avec laquelle on parle de ces films, qui est une forme de refus du mélodrame, en fait, puisque à chaque fois, les scènes les plus attendues mélodramatiques sont bouclées en un regard vers l'arrière. Il plonge jamais dedans, quelque part. Il a quelque chose de très pudique, comme ça, qui peut être... Non, moi, je parlais pas tellement de la toute fin du film, plus de la sortie de l'univers, une fois que... Enfin, tout ce qui a été induit avec l'effondrement du monde, cette espèce de monde des perruches qui évoque un petit peu le roi et l'oiseau, dont on comprendra pas très bien les tenants et les aboutissants non plus, malgré quelques visions de verticalité du monde assez époustouflante.
Mais... Oui, puis on sait à quel point Miyazaki a toujours été antimilitariste, et là c'est vrai qu'il l'est de manière un peu littérale. C'est pas l'incarnation la plus bouleversante de son antimilitarisme qu'on pouvait avoir dans Le Château Ambulant ou d'autres films, en fait.
Oui, quelque part, c'est un film qui est un peu dans la retenue, et c'est peut-être un peu son paradoxe, finalement, d'être un film à la fois extrêmement aventureux, qui va dans énormément de directions différentes, qui est constamment inventif, mais pour finalement avoir cet aspect quelque part un peu mineur, un peu resserré. J'ai cette sensation un peu étrange, voilà, et paradoxale sur ce film-là. Merci beaucoup, Adrien. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Atari.